Voilà, bah vous êtes annoncé, Xavier, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier.
Vous écoutez France Culture comme moi, il est 6h45 et aujourd'hui, donc au sommaire des enjeux, une question sur le Yémen avec Odeida. Y a-t-il un tournant dans le conflit ?
Oui, parce que c'est la plus grande offensive des loyalistes depuis 2015 et puis qui se télescope avec l'annonce de négociations de paix au Yémen, télescopage donc des méthodes et des objectifs. S'agit-il d'un tournant stratégique, cette offensive sur Hodeïda? On en parle avec vous, Linda Alobaï, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être venue. Vous êtes diplômée de l'ENA, vous avez travaillé à l'ambassade de France au Yémen, vous êtes consultante indépendante sur le Yémen. Alors, cet assaut terrestre et aérien de la coalition sur Hodeïda, c'est une ville de 600 000 habitants, un véritable verrou stratégique, 80% du trafic commercial, 70% de l'aide humanitaire. Elle contrôle avec Aden, cette ville, l'accès à la mer Rouge. Alors reprendre la ville et le port, ce serait pour la coalition un pas majeur depuis la guerre de position qui s'est installée après 2015. Mais d'une part, les Houthis rebelles sont toujours à Sanaa. Ils ont promis de faire de la côte ouest le bourbier de la coalition. Et puis surtout, cette attaque intervient alors même que l'ONU s'active pour convaincre les Houthis justement pour des négociations inédites là depuis 2016, comme s'il y avait deux processus indépendants, la guerre et la solution politique. Alors s'agit-il de torpiller d'éventuelles négociations de paix ? Peut-être un mot, Linda Alobaï, de ce que représente justement Hodeïda, donc grande ville, 600 000 habitants sur la côte ouest du Yémen. En quoi est-ce que c'est un verrou stratégique ?
Bonjour et merci pour cette invitation. En fait, pour donner un peu de en présentation sur Al-Hodeïda, c'est la quatrième plus grande ville du Yémen avec une population de 600 000 habitants. Elle est située sur la mer Rouge et a un port important à partir duquel, même dans l'histoire, sont exportés du café, du coton, des marchandises, etc. sous l'Empire ottoman. Hodeïda aussi, il est situé dans un endroit stratégique sur la côte ouest du Yémen, donnant accès au Bab el-Mandab et reliant la mer Rouge au golfe d'Aden. La sécurité de cette ville, cette grande ville portuaire du Yémen, est essentielle pour la protection du commerce international. Et pour la coalition, le contrôle de Hodeïda fournit une base stratégique pour peut-être une future bataille à Sanaa, pour la reprise de Sanaa. Et donc, la coalition cherche à tout prix la recapture de cette ville. Et actuellement, sur terrain, on voit que les Houthis, elles maintiennent leur résistance. Il y a une guerre, au moment où on parle là, il y a une escalade des opérations militaires. Les Houthis cherchent à gagner du temps, à creuser des tranchées ou d'utiliser des civils comme des boucliers humains. Et la coalition de son côté aussi continue les bombardements en ciblant les Houthis, mais bien sûr, comme on a vu à Sanaa, il y a toujours des civils qui tombent lors de ces frappes aériennes.
Parce que, parlons stratégie, justement, c'est une offensive qui s'appelle Golden Victory, je crois, cette fois, qui met en jeu 21 000 hommes, à la fois des forces loyalistes yéménites et des hélicoptères, des avions de la coalition Arabie Saoudite et Émirats notamment. Est-ce que, comme le disent les Émirats, c'est possible de reprendre la ville, c'est-à-dire l'aéroport et le port stratégique, sans réduire en poudre la ville elle-même dans laquelle sont les Houthis?
On a déjà un exemple à Aden, à Taiz. Donc il n'y a jamais une bataille qui est gagnée sans avoir des victimes, des morts et des dégâts en général. D'après l'histoire récente et cette guerre à Aden et à Taiz, on sait très bien les Yéménites et je crois même la coalition sait très bien que les Houthis va pas vraiment laisser tomber cette bataille et va pas lâcher cette guerre rapidement. Il s'agit de la deuxième grande ville sous son contrôle. Donc on peut imaginer que les Houthis va continuer ses demandes auprès des Nations Unies pour que le port de Hodeïda soit contrôlé au moins par les Nations Unies et pas par la coalition arabe. On a déjà de l'histoire, par exemple au mois de décembre 2017, la coalition a bloqué le port de Hodeïda pendant 3 semaines. Et c'était suite à des rapports qui ont révélé en quelque sorte le transfert, l'acheminement des armes, des missiles balistiques par le port de Hodeïda. Donc, sous la pression de la communauté internationale et des organisations humanitaires, la coalition a décidé de réouvrir le port. Donc, c'est la grande crainte auprès de Yémen, pas seulement les Houthis, c'est que le maintien ou le contrôle de ce port soit un élément de chantage entre la coalition et les Houthis.
Oui, parce que c'est le problème avec Hodeïda, vous l'avez dit, c'est qu'à la fois la coalition soupçonne ce port de recueillir notamment les missiles iraniens et des navires iraniens, et que d'un autre côté, c'est effectivement la porte d'entrée de nombreux médicaments pour les Yéménites. Il y a un véritable risque à court terme, comme s'en est alarmée l'ONU, pour la population. On sait déjà que je crois qu'il y a 14 millions d'habitants qui souffrent de la faim.
Exactement. Et en tant que personne qui a passé toute sa vie à Sanaa, qui a vécu aussi 7 mois de cette guerre avant de venir faire ma scolarité ici en France, je peux vous dire que c'est pas seulement le peuple de Hodeïda qui vont subir en quelque sorte ce manque d'aide humanitaire ou le manque d'importation alimentaire. La vie est tellement chère. C'est pas juste. La crise actuelle au Yémen, c'est pas seulement une crise politique.
C'est l'inflation due au blocus.
Exactement. Ouais. Il y a une crise économique très importante qui a une ampleur énorme sur la vie de tous les habitants du Yémen. Donc, la question qui se pose actuellement, c'est que qu'est-ce que cherche la coalition à travers cette offensive? Est-ce qu'on cherche à pousser les Houthis vers le nord? Ça veut dire de Hodeïda vers Sanaa et puis de Sanaa vers Saada. En ce cas-là, ce n'est pas vraiment une solution politique qu'on cherche. Ce n'est pas un règlement politique.
Ça, ce serait l'objectif purement tactique, en fait, faire pression sur les Houthis. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elles interviennent, justement, pourquoi est-ce qu'elle intervient cette offensive au moment où il y a Martin Griffiths, l'émissaire de l'ONU, à Sanaa, qui dit faire des avancées, même si pas encore complètement avec les Houthis?
C'est également la question qu'on se pose nous-mêmes, parce que après la nomination au mois de janvier de l'envoyé spécial, M. Griffiths, on était vraiment très optimistes d'avoir un envoyé spécial qui a gagné la confiance des Houthis. Parce qu'avec l'ancien envoyé spécial, ils ont vraiment décidé de ne plus reprendre les négociations et de ne plus l'accueillir à Sanaa. Donc, Monsieur Griffiths, elle a fait des efforts, elle a fait des voyages à Maghreb, à Sanaa, en Arabie, aux Émirats, même aux États-Unis, et elle a élaboré un plan de paix. Et au moment où elle était en train de promouvoir son plan, on voit arriver cette offensive de la coalition.
Et on voit revenir aussi le président Hadi qui est revenu à Aden.
Ça, c'est très, comment dirais-je? Normalement, un président devrait être toujours dans son pays. Donc, que ça soit vraiment quelque chose dont on parle dans les actualités et tout, ça me paraît un peu bizarre parce que c'est sa place d'être dans son pays. Et c'est vrai que sa présence actuelle à Aden, c'est aussi pour montrer son soutien à cette offensive et aussi pour être proche de peuple yéménite pour les rassurer et tout. Depuis hier, elle lance des projets à Aden, etc. Mais honnêtement, on se tient vraiment le gouvernement légitime et on compte pas trop sur son rôle. On sait très bien que tout est géré au niveau de la coalition arabe et au niveau des Émirats qui gèrent cette offensive.
De ce point de vue-là, quel avenir vous leur donnez à ces pourparlers de paix? L'ONU annonce des négociations en juillet, là.
Je voudrais aller rapidement sur le plan de paix qui a été présenté hier dans une séance à huis clos à l'ONU. Donc c'est vraiment un plan qui a deux volets, un volet politique et l'autre militaire. Sur le volet politique, on cherche à avoir un consensus, un accord sur une période de transition. On cherche aussi que cet accord comprend toutes les composantes politiques, les jeunes, les femmes, la société civile, etc. Avec un accès inconditionnel selon la déclaration de président du Conseil de sécurité adoptée le 15 mars 2018. On cherche surtout à la mise en place d'un gouvernement de transition avec un premier ministre consensuel. Ça, vraiment, il faut souligner ce point parce que trouver un premier ministre consensuel, ça va prendre un peu de temps, à mon avis. Il n'y a pas de consensus en ce moment, en fait. Et dans son gouvernement, il faut vraiment avoir une représentation de toutes les composantes politiques d'une manière suffisante et adéquate. Il y aura aussi la reprise, on est toujours sur le volet politique, il y aura la reprise de processus concessionnel et électoral. La nouvelle concession yéménite est déjà rédigée, mais le coup d'État est arrivé au moment du référendum, donc il n'y avait pas de référendum à l'époque. Et pour le processus électoral, il faut renouveler le registre électoral et ça exige beaucoup d'argent et beaucoup de matériaux. On cherche aussi trouver surtout une solution à la question du Sud. Vous savez que maintenant, avec les demandes à la c'est-à-dire des sudistes pour l'autodétermination, on cherche vraiment à avoir une séparation de Sud et de Nord. Donc, il faut vraiment trouver une solution. Et ça, vraiment, ça serait un des défis pour les futures négociations. Les références de ce volet politique, ça serait toujours l'initiative de Golfe, les outcomes de la conférence et la résolution du Conseil de sécurité.
Et ça, c'est ce qui a été proposé hier à suivre. Donc, si ces négociations ont lieu en juillet, si ces pourparlers se poursuivent en ce moment à Sanaa et si cette offensive sur Hodeïda continue aussi. Merci beaucoup, Linda Lobaï, pour aujourd'hui. On verra toutes vos références sur le site de France Culture. Merci.
Merci à vous.